Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo ce soir, on écoutera une interview réalisée par Jean-Pierre avec toute l'équipe de la pièce Le Cercle des Poètes Disparus. Il a eu l'occasion de rencontrer tout ce beau monde juste avant leur représentation au Festival d'Anjou, festival duquel évidemment Radio Campus Angers est partenaire. Au programme également, la chronique de JB sur les fatigues physiques et mentales des joueurs de foot. Vous savez tout de ce pédalo, alors ajustez votre gilet de sauvetage, on part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Avec moi dans le studio JB. Salut JB.
Salut.
Tu vas bien?
Oui, ça va et toi?
Et on va s'intéresser avec toi JB au football et à la première Coupe du Monde masculine des clubs. Une compétition qui réunit 32 clubs de tous les continents du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Et le Paris Saint-Germain, c'est le seul représentant français dans cette compétition qui a débuté le tournoi ce dimanche 15 juillet à Los Angeles. Et c'est une nouvelle compétition sportive organisée par la FIFA qui pose évidemment des questions, et notamment la question de la récupération des joueurs.
Pour le PSG, cette Coupe du Monde des clubs arrive 2 semaines seulement après le premier sacre en Ligue des Champions. Ce soir contre Seattle, c'est le 63e match quand même de la saison. Pour le tout récent champion d'Europe, l'usure physique et mentale se fait sentir parmi les joueurs. Ainsi, Vitinha, excellent milieu du PSG cette saison, a récemment confié « C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup d'énergie, la saison est très longue, il y a de l'usure ». Disputer toutes ces compétitions impacte la santé des joueurs et multiplie les risques de blessures.
Et on parle beaucoup de l'usure physique des joueurs pros, mais on oublie bien souvent que l'usure, elle peut être aussi dans la tête mentale.
Alors, dans un passionnant article de France Info, le préparateur mental Fabrice Allouche explique qu'enchaîner avec une nouvelle compétition exige une réinitialisation mentale. On doit refermer un chapitre avant d'en ouvrir un autre. C'est un sas de décompression suivi d'un nouveau pic de concentration. Quand les compétitions s'enchaînent, sans pause, les joueurs n'ont plus le temps de se régénérer mentalement. Gagner la Ligue des Champions peut paradoxalement générer un creux mental. C'est le syndrome du sommet atteint après avoir accompli l'objectif ultime.
C'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu leur dernier match contre un club sans doute à leur portée. En tout cas, tu as dégoté quelques chiffres pour nous illustrer cette usure mentale de fin de saison.
Et oui, car selon la FIFPro, la Fédération Internationale des Syndicats de Footballeurs, la charge de travail excessive se situe quand la barre des 55 matchs est dépassée. Le calendrier international saturé est devenu intenable pour les ligues nationales et surtout dangereux pour la santé des joueurs. Il y a eu un suivi de la charge de travail, le rapport PWM 2023-2024, qui révèle ainsi qu'un tiers des joueurs professionnels participent à plus de 55 matchs, justement, dans une saison. Certains joueurs bénéficient de moins d'un jour de repos par semaine, en violation totale des normes internationales de santé et de sécurité au travail. Et quant à la France, afin d'alléger le calendrier, le nombre de clubs en Ligue 1 a été réduit de 20 à 18 en 2023, et la Coupe de la Ligue a été supprimée en 2020.
Ouais, tout ça pour donc alléger ce rythme, cette cadence infernale. D'ailleurs, les joueurs s'en plaignent et les entraîneurs aussi, puisqu'ils expriment assez librement leurs opinions. Ils n'hésitent pas à le dire.
Et oui, en effet, un stakhanoviste comme Antoine Griezmann, quasiment jamais blessé durant sa carrière, a décidé en octobre dernier d'arrêter l'équipe de France à 34 ans seulement, afin de réduire cette cadence infernale. Raphaël Varane, quant à lui, a déclaré en raccrochant les crampons à 31 ans « Le haut niveau est comme une machine à laver, vous jouez tout le temps et vous ne vous arrêtez jamais ». L'ex-coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a de son côté évoqué l'été dernier, l'idée d'imposer des vacances forcées à ses stars en cours de saison. Et concernant l'éternel rival du Real, un joueur du Grand Barça, et oui, le Grand Barça, car je vous avoue, je suis supporter du FC Barcelone.
En même temps qu'il ne l'est pas.
Mais enfin bref, revenons à nos boutons. Oui, bah oui. Et donc le Barcelonais Jules Koundé a déclaré « Toujours plus de matchs et moins de repos. Personne ne nous écoute, alors on va faire grève pour être entendu. »
Et cette grève, elle a pourtant plané, c'est une menace qui a plané pendant quelques semaines.
C'est ça, ouais, mais elle a finalement pas eu lieu. Mais néanmoins, deux plaintes ont été établies contre la FIFA et donc ont été déposées par les syndicats européens du monde du football à la Commission européenne et au tribunal de grande instance de Bruxelles. Ces plaintes sont en attente de jugement et sont donc uniquement symboliques pour l'instant, mais elles révèlent tout de même une prise de conscience collective afin de changer la donne.
Et pour finir, JB, point écologie, hein, sur les ondes de campus, ça nous tient à cœur. La Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition de plus dans le calendrier. Et qui dit toujours plus de compétition, dit aussi toujours plus de voyages en avion à travers le monde pour les supporters et aussi pour les joueurs.
Cette augmentation des voyages aux quatre coins du monde explose aussi le bilan carbone en effet. Le capitaine du PSG, Marquinhos, fait des allers-retours au Brésil pour disputer ses matchs en sélection, soit 96 000 km parcourus par an en avion. Pour Mohamed Salah, l'attaquant égyptien star de Liverpool, c'est 67 000 km. Kylian Mbappé parcourt quant à lui 31 000 km. Pourtant, il joue en équipe de France et au Real Madrid, ce qui n'est pas si loin, mais il a de nombreux contrats publicitaires à honorer sur toute la planète. Et quant à cette fameuse Coupe du Monde des clubs, eh bien elle se dispute entre les côtes Est et Ouest des États-Unis, avec de multiples déplacements en avion au fil des matchs et des entraînements. Autre facteur de fatigue pour les joueurs et vecteur significatif d'un sport pas vraiment écolo-responsable. Enfin bon, la santé de notre planète est un autre débat.
Oui, quand les joueurs jouent sous 45 degrés, peut-être que c'est... Peut-être qu'on pourrait voir peut-être voilà, un lien de cause à effet entre la fatigue des joueurs, parce qu'ils jouent dans des conditions toujours plus extrêmes, leurs déplacements. Enfin bon, voilà, tout ça est un cercle sans fin. Demain, on en parlera dans la chronique de Philippe, évidemment, toujours prompt à nous rappeler à quel point cette crise est systémique. Merci beaucoup, JB, pour ta chronique. Ouais. Et puis, à très bientôt sur les ondes de campus. C'est toi qui es en stage avec nous jusqu'à la fin du mois de juillet, fin du mois d'août.
Tout à fait, ouais.
Au plaisir, évidemment. Je te propose qu'on se laisse quelques instants en musique. Je ne sais pas si tu connais Julia Mestre.
Oui, qui est programmée dans la playlist actuellement.
Ouais, ouais, exactement. Et ben, on va écouter son morceau qui est dans la playlist de Radio Campus en ce moment, qui s'appelle « Soufera ».
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
Et je vous propose qu'on se laisse maintenant avec Jean-Pierre qui a rencontré toute l'équipe de la pièce Le Cercle des Poètes Disparus qui était en représentation au Festival d'Anjou.
Bonjour, ce soir je suis au Plessis Massé dans le cadre du Festival d'Anjou qui a commencé, qui a ouvert ses portes mardi dernier. Alors en fait je suis dans la salle de restaurant, la magnifique salle de restaurant d'ailleurs, et je suis en compagnie d'une partie de la troupe du Cercle des Poètes Disparus qui va entrer en scène dans environ 2 heures. Elle se compose au total normalement de 11 comédiens, c'est ça, dont le plus connu est Stéphane Fraisse. Bon. Alors d'abord bonjour à tous et merci de m'accorder ce petit moment privilégié pour Radio Campus Angers, les bonnes ondes sur 103 FM. Alors tout d'abord, avant d'y être accueilli, ici, hier et ce soir, qui était déjà venu ici?
Au Plessis Massé, jamais. Mais par contre, Angers, oui.
Oui.
On est venu à Angers il y a un mois et demi jouer. Et après, le Plessis Massé, non, moi je ne connaissais pas. Je crois que personne ne connaissait de l'équipe.
C'est la première dans ce festival, dans ce magnifique festival.
Alors, magnifique festival, comme vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, c'est qu'après le Festival d'Anjou, c'est le plus renommé, puisqu'il a 75 ans. Voilà. Alors, donc vous avez donc joué hier. Alors, comment avez-vous trouvé le cadre d'abord ?
Vraiment, vraiment magnifique. On n'a pas beaucoup joué en extérieur. C'était notre deuxième date en extérieur. Depuis le début de la tournée, on a fait quand même une centaine de dates. Et c'était incroyable. De voir la nuit qui se couche au fur et à mesure de la pièce, c'est formidable. On a été merveilleusement accueillis et par l'équipe ici et par le public qui était extrêmement réceptif et qui est très chaleureux. C'est un vrai bonheur.
Oui, justement, quelle grande différence c'est de jouer à l'extérieur ou de jouer en salle?
La première, c'est qu'on commence à jouer alors qu'il fait presque encore jour. On repousse le plus l'horaire de début de représentation pour avoir le plus de nuit possible, parce qu'il y a beaucoup d'effets de lumière qui sont propres à des salles fermées. Et puis après, il y a par exemple le bruit. On a eu des bruits de cloches au début de la représentation. On a des oiseaux du début à la fin de la représentation, ce qu'on n'a absolument pas dans des théâtres fermés. Et puis, dû au fait qu'on commence d'abord de jour, on voit l'entièreté du public au début de la représentation. En entier, on voit les visages complets, là où dans des salles fermées, c'est beaucoup plus compliqué, au-delà du troisième rang.
C'était plein, il y avait 1500 personnes, c'est quand même un bon public. Comment vous, par rapport à des salles fermées, comment vous ressentez le public différemment, puisque c'est en plein air ou pas?
Moi j'ai la sensation, après mes camarades donneront leur avis, mais moi on entend moins, parce que dans une salle fermée, effectivement, le retour du public, il est immédiat parce que l'infrastructure le permet. Là c'est plus dilué, moi c'est un avis personnel. La réaction du public, elle est moins immédiate, on a moins de... Visuellement on vous voit quand il fait jour, mais on vous entend moins. Voilà.
Mais la force des 1500 personnes qui sont là fait qu'on les entend un peu plus que par exemple s'ils étaient juste entre guillemets 100. On les sent quand même, voilà. Mais je rejoins mon camarade.
Ça vous a dérouté un peu au début, parce que c'est en termes de repères, non, pas spécialement?
Non, alors ça ne nous a pas dérouté. Ce qui nous a un peu plus dérouté, c'est que la scène était petite, ici, très étroite. Et du coup, on a dû agencer un petit peu la mise en scène, les décors, et s'adapter, voilà. Peu profonde, être très allongée, mais très peu profonde.
Ben oui, parce que j'ai vu celle au Grand Théâtre au mois d'avril, et donc il y a des changements de plateau quand même. Et là, ça n'a pas été possible, les changements de plateau aussi quand même.
Si, absolument. C'était juste le plus petit, donc un peu plus galère, mais ça s'est fait quand même. Ouais.
D'accord.
Il n'y a pas la grotte par contre. Il y a certains décors et des effets qu'on ne peut pas, notamment des choses qui arrivent du plafond. Comme vous avez bien vu, le plafond c'est le ciel.
Oui. Ah oui, bien sûr. Et alors, si on en vient à la pièce en elle-même. Alors, d'abord, qui peut me répondre, comment a été choisie cette adaptation? Par le metteur en scène, évidemment. Donc c'est Tom, c'est ça?
Alors en fait, l'histoire du Cercle des Poètes Disparus, c'est d'abord un scénario, oui, écrit par Tom Schulman en je ne sais plus quelle année exactement.
C'est 89.
Voilà.
89.
Donc c'est d'abord un scénario, ça a été adapté après en livre, et puis il y a une dizaine d'années, ça a été adapté en pièce de théâtre, toujours par Tom Schulman, le même scénariste qui avait écrit le film. Et depuis 10 ans, le metteur en scène de cette adaptation, Olivier Soliveres, voulait l'adapter. Il a appris après qu'il y avait l'adaptation de Tom Schulman, qu'ils ont retravaillé une fois qu'ils ont eu les droits avec Gérald Sibleras pour faire l'adaptation française de cette adaptation théâtrale déjà américaine dans un premier temps.
Ok. Et alors, avant de venir ici, vous l'avez joué combien de fois sur Paris, puis après en province?
On l'a joué, là, ce soir c'est notre 298e, donc, parce qu'elle a été jouée une centaine de fois au Théâtre Antoine, puis une centaine de fois au Théâtre Libre, et on arrive sur notre centième date de tournée bientôt.
D'accord. Et alors, donc, vous avez donc, tous été donc, choisis, alors est-ce que c'est par un casting, est-ce que c'est parce que Solivérès, je ne sais pas son prénom, voilà, voilà. Il en connaissait déjà certains d'entre vous, comment ça s'est passé, est-ce que c'est cooptation?
C'était un énorme casting, ça c'est pas souvent, mais c'était une énorme audition de 300 personnes.
Ouais,
c'est ça. 1500 candidatures, ouais. Et il en a vu 300 à peu près. Donc ça se fait pas souvent au théâtre, mais là on a eu la chance de pouvoir auditionner comme ça face à plein d'autres garçons de notre âge.
Oui, d'ailleurs, le fait que ce soit pas mixte, j'ai une question justement pour après. Mais donc, oui, c'est particulier, effectivement, les castings de cette ampleur-là pour un théâtre, enfin, pour une pièce. Et alors, qui a eu l'idée de cette introduction musicale, justement, ces morceaux des années 50, 60, et le fait d'inviter le public pour danser, etc.
C'est Olivier Solivérès, le metteur en scène, qui, lui, a d'abord en tant que metteur en scène, a beaucoup travaillé pour des spectacles jeunes publics, et dans ces spectacles jeunes publics, pour occuper les enfants avant le début du spectacle, avait l'habitude de faire ce qu'on appelle un pré-show, et il s'est dit que ce serait trop dommage de ne pas faire ça pour ce spectacle-là, et ça a été l'occasion parfaite pour déjà amener le public dans l'univers des années 50 du Cercle des Poètes Disparus, et le mobiliser et le faire déjà un peu entrer dans l'histoire de cette pièce.
C'est une super idée, ça. Hier ça a pris aussi, ça prend à chaque fois en fait, j'imagine.
Ouais, c'est festif, c'est joyeux.
Ah ouais, c'est ça. Ouais.
Ça brise un mur tout de suite avec le.
Ah ouais, complètement. Ouais, 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 ouais. Et alors, je voulais quand même vous demander. Attendez, je suis un peu perdu dans toutes mes questions. Oui, c'est ça. Est-ce que, une fois que vous avez été choisi, est-ce que justement le metteur en scène a voulu que vous regardiez le film, ou vous l'aviez peut-être déjà vu avant? Comment ça s'est passé?
Alors pour ma part, c'est différent, parce que moi je fais partie de la deuxième distribution, qui veut dire qu'il y en a eu deux. Moi je fais partie de l'équipe qui joue normalement sur Paris en ce moment, et là je viens aider pour la tournée, pour remplacer Pierre Delage, qui joue le rôle de Mix. Et moi ça a été différent parce que c'est mes camarades, c'est Ethan qui m'a mis sur l'audition, et j'ai passé l'audition avec Olivier, et j'ai été pris, et bien sûr on a tous vu le film avant ou pendant les auditions pour se, voilà, dans notre métier de comédien on se cale au plus près de ce que voudrait nous demander le metteur en scène, et c'est notre travail en amont d'essayer de répéter et d'avoir un peu toutes les cartes dans nos mains pour être le plus productif possible le jour J.
Mais pour ma part, je suis plus vieux que mes camarades, moi je l'ai vu à sa sortie en France en 89, j'ai fait partie de cette génération qui a été émue, touchée, et en même temps, voilà, j'ai fait partie des 6 millions de spectateurs de l'époque.
Oui, justement, c'était un grand succès, pardon.
Et Ethan, t'as une super anecdote.
Ah oui, non. Oui, non, moi j'ai une histoire un petit peu particulière avec le film, puisque c'était mon film préféré, et que le choix de mon prénom n'est pas étranger au film, dans la mesure où ma mère était fan de la performance d'Ethan Hawke dans le film, et c'est pour ça que je m'appelle Ethan. Alors, je joue pas le rôle qu'incarnait Ethan Hawke,
puisque
c'est toi qui joues, j'ai bien compris, mais c'est une histoire un peu particulière que j'ai, parce que c'est que ça reste un film sacré pour moi, quasiment sacré. C'est mon film de chevet, c'est un film que j'aime à revoir assez souvent.
Alors ça veut dire que tu as passé le casting comme tout le monde.
Oui, absolument.
Et donc ça a d'autant plus d'ampleur, enfin de signification pour toi.
Il y a eu le Molière de la révélation. Pour sa prestation dans le rôle de Neil Perry. Voilà. Non, mais c'est important parce qu'il voilà, on le dit à sa place.
Ouais.
Donc voilà.
Alors moi je suis les Molières tous les ans, j'avais suivi évidemment, pas dans le détail, donc désolé, bravo.
C'est Audran qui a été aussi nommé dans les révélations, voilà, les deux étant dans une compétition amicale.
L'éternel.
D'accord. En 89, quand le film est sorti, effectivement, qui a eu une ampleur, un impact très très fort. Alors Robin Williams évidemment, mais aussi le message philosophique. Donc à l'époque, effectivement, ça avait beaucoup marqué les esprits. On est en 2025. Ce fameux message philosophique, comment vous pensez qu'il est perçu maintenant dans un contexte évidemment complètement différent, avec beaucoup de tensions et autres, dans les retours que vous avez peut-être sur les réseaux sociaux ou autres, on vous en dit?
Je pense que l'un des premières choses, c'est de se rappeler que le message pionnier du spectacle et du film, c'est Carpe Diem, c'est-à-dire cueillir les opportunités, profiter pleinement de ce que le présent a à nous offrir. Et je pense qu'effectivement, ça résonne d'une manière tout à fait différente avec l'écho que ça pouvait trouver dans les années 80, fin 80, début 90. Mais pour autant, c'est très important aujourd'hui, dans la mesure où on est dans une époque où on filme ce qu'on vit au lieu de l'éprouver pleinement. On n'est jamais en train tout à fait d'expérimenter ce qu'on pourrait vivre. Donc je trouve que ça trouve un écho certes différent, mais tout aussi important. Et je sais que c'est une expression qui a été légèrement galvaudée, les gens se le sont comme, ça a été perçu comme une invitation à faire ce qu'on voulait quand on voulait, alors que c'est vraiment une incitation à prendre ce que le présent peut nous offrir. Et je trouve que l'écho que ça trouve aujourd'hui est certes différent, mais tout à fait intéressant.
D'accord. Est-ce que vos rôles respectifs ont été difficiles à appréhender, à apprendre, à jouer? Enfin, alors effectivement, vous avez beaucoup, beaucoup d'expérience maintenant avec tout ce nombre de pièces, mais quand même, est-ce que ça a été difficile pour les uns ou pour les autres?
Alors, moi, oui, je pense que ça a été difficile pour moi, parce que en fait, je joue le personnage qu'interprétait Ethan Hawke dans le film, qui est le personnage de Todd Anderson, qui est un garçon assez timide. Alors dans le film, il bégaye pas. Il est timide, mais c'est un timide réservé. Mais pour le faire exister au théâtre, dans plein de scènes où il est présent mais il ne parle pas, et pour le faire aussi exister dans les scènes où il prend la parole en bégayant, ça a été assez difficile parce que je suis quelqu'un d'assez extraverti de base, et pour justement passer dans l'introversion et dans la timidité, ça n'a pas été évident tout de suite. Et ça m'a demandé beaucoup d'efforts physiques et de réflexion pour arriver à quelque chose qui me satisfaisait moi et qui, du coup, je l'espère, a plu aux personnes qui sont venues me voir.
Non, comme j'ai vu la pièce, effectivement, tous les rôles sont assez formidables. Je fais du théâtre amateur, donc je sais que c'est difficile. Mais le fait, évidemment, je ne te connaissais pas, mais de rentrer dans un personnage très, très introverti, etc., justement, quand on est extraverti, j'imagine que c'est un gros, gros travail. Et les autres, vous voulez parler de vos rôles?
Moi, pour ma part, c'était assez... Enfin, c'était pas simple, mais ça collait assez avec ma personnalité de base. Donc, ça a été une construction assez naturelle.
D'accord. Grosse expérience.
Oui, disons que j'ai plus d'expérience que mes camarades. Étant le plus vieux, vous n'avez pas l'image, mais je vous jure, je suis plus vieux qu'eux. Difficile. Moi, je pense qu'il n'y a pas de rôle facile. Après, il y a des rôles qui peuvent être un petit peu plus proches, dans lesquels on se glisse plus facilement que d'autres. Il y a des choses qui nous semblent des fois plus évidentes à faire. Après, sur ce rôle-là, moi, j'étais... Les auditions servent à ça aussi. C'est-à-dire qu'on nous donne une scène à travailler... On la passe devant le metteur en scène et devant son assistant. Et donc déjà, on voit, on mesure la distance qui nous sépare du résultat. Et moi, j'ai fait un choix qui était celui-ci, parce que dans le film, le père n'est pas aussi... la finalité est la même, mais en tout cas au théâtre je ne pouvais pas transposer ce qui se passait. Au cinéma, il y a des gros plans, donc ça veut dire que quand il lui dit non, il n'est pas obligé de passer un nombre de décibels que je m'autorise à faire au théâtre. En revanche, j'avais cette chose là qui était de me dire c'est une lame, il a un objectif. C'est son fils doit faire ce qu'il lui demande. Point. Et il n'y a pas de non-retour. Et ça, c'était vraiment la ligne que j'ai pris dès le départ. Il se trouve que le metteur en scène a été d'accord avec ça. Et donc voilà. Mais après, tous les rôles sont à chaque fois. Non, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un challenge pour nous à chaque fois qu'on se lance dans une nouvelle aventure. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait quand on est jeune comédien de jouer avec des comédiens aguerris? Alors comme vous, Stéphane Fraisse, etc. Ça fait quoi?
C'est toujours très agréable, bien sûr, parce que ça, ils ont une vision, ils ont certains repères que peut-être on n'a pas encore tout à fait à certains endroits, une certaine maturité ou disons plutôt certains réflexes qu'ils ont pris, qu'ils ont accumulés au gré de l'expérience, et donc c'est nécessairement inspirant. Mais là aussi où c'est génial, c'est de jouer avec autant de monde de manière générale. C'est-à-dire que ça, c'est assez rare finalement, surtout quand on débute, dans la mesure où quand on débute, on a tendance à essayer de... Les budgets sont serrés, donc on raréfie les gens avec qui on essaie de faire des troupes plus petites, etc. Et là, d'avoir, de jouer avec 11 personnes, avec une équipe de foot finalement, c'est très très agréable. Et ce collectif-là, cette camaraderie-là qu'on a et qu'on doit en plus retranscrire théâtralement, c'est assez vertigineux, mais dans le bon sens du terme.
Alors justement, en off, puisque tu as parlé d'équipe, donc une troupe, c'est une équipe. Absolument. Comment ça se passe au quotidien? Alors donc, il y a eu Paris, mais comme vous sillonnez un peu quand même la province, ça se passe comment au quotidien, sachant que c'est une équipe masculine, il n'y a pas du tout d'actrice. Donc voilà, comment ça se passe?
C'est un peu la colo, mais dans le bon sens du terme. Maintenant, c'est très fatigant parce qu'on a beaucoup de transport. D'autant plus qu'on conduit aussi un van. Et il y a des trajets assez longs. Et donc, on visite un peu les villes. On prend le temps de se poser à l'hôtel, de se reposer, de découvrir le théâtre dans lequel on va jouer, de prendre nos marques. Et après, la vie au quotidien, c'est de découvrir les gens aussi dans leur intimité un peu aussi, parce qu'on est tout le temps avec eux. Donc les différents tempéraments, s'adapter, c'est trouver de s'entendre en fait au quotidien, parce qu'on a passé 6 mois ensemble sur les routes. Donc c'est du travail social, mais en même temps, bon là, nous on s'entend tous très bien, donc c'est pas non plus un travail dans le sens où c'est assez naturel. Mais oui, c'est une entente, c'est une vie ensemble et sociale. Ouais.
Et j'ajouterais, il y a quelque chose qui facilite énormément ça, c'est que on vit une pièce, l'aventure qu'on vit avec cette pièce, elle est unique. C'est-à-dire que on a été à la base du travail de création, mais le résultat était immédiat. Dès la première, les gens étaient debout, et on sait qu'on a tous un spectacle, on sait qu'on a un spectacle dans les mains qui est extraordinaire. Donc ça fait aussi que on mesure aussi la chance qu'on a de faire ça. Donc on va pas la gâcher non plus par des petites chamailleries ou des choses. Ça aide aussi pour un spectacle quand ça gagne. On parlait d'une équipe de foot tout à l'heure, mais voilà, quand... Et il se trouve que nous, on a cette chance-là. Ça, à chaque fois, on a un accueil formidable et on est très heureux de jouer cette pièce tous les soirs. Ça aide.
Si on pouvait juste souligner, on est une équipe que d'hommes au plateau, mais on est une plus grande équipe que ça. Et sur la tournée, il y a aussi avec nous Cathy, une costumière. On a aussi la production derrière qui nous suit beaucoup, avec beaucoup de femmes. On a Mathilde à la lumière, l'administratrice, Agathe. Et même dans toute l'équipe de Paris, il y a aussi beaucoup de femmes avec nous. On n'est pas seulement entre hommes tout le temps.
Je m'en doutais.
Non, je disais simplement que c'est pas parce qu'il n'y a que des hommes qu'il n'y a pas de féminin dans le... Voilà.
C'est tout. Ça va se terminer bientôt. C'est quoi la suite après donc le Festival d'Anjou? Vous jouez ou alors il y a une coupure?
Antibes-Ajaccio, Enghien-les-Bains en région parisienne. Et on va finir la tournée fin juillet, début août à Sisteron, au Festival de Sisteron, puis pour la dernière au Festival de Ramatuel.
Voilà. Et on reprendra à Paris en septembre au Théâtre Libre. Alors pas tous, parce qu'il y en a qui vont partir sur d'autres aventures, mais en tout cas à partir du 10 septembre au Théâtre Libre, cette pièce est à nouveau programmée.
D'accord, donc une nouvelle saison, c'est ce que j'allais vous demander. Eh bien écoutez, je vous libère, merci beaucoup. Bonne représentation, hein, c'est ce qu'on dit. À bientôt, au revoir.
Merci.
Et le pédalo termine, lui, sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Un grand, grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous, à Jean-Pierre pour son interview et à JB pour son papier. Demain, on parle de la primaire populaire organisée par l'Union des Gauches angevines. On vous présentera le mode de scrutin un peu particulier. Alors restez bien sur le 103 FM et surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.